Shalom, assalam alaikum. Vous êtes les bienvenus au Club La Presse de ce jour, mercredi 6 décembre 2023. Et nous vous saluons, vous qui êtes en place pour nous écouter sur Radio Canal FM, sur Radio Lumière à Nero, sur Radio La Paix, la Voix des Plateaux à Takpamé, sur Radio Centrale FM à Sokodé, sur Radio Daoul à Bassa, sur Radio Sama FM à Baganiamtougou, sur Radio Courtoisie à Dapan. Est-il encore besoin de le rappeler que le Club La Presse, c'est cette émission qui est suivie un peu partout dans tous les coins et recoins du Togo. C'est grâce à Canal FM, c'est également grâce à la chaîne de solidarité confraternelle qui nous lie avec toutes les radios du Togo. Et c'est pas fini, d'autres radios numériques comme Radio Le Bénin et Ben Radio. Il y a en plus notre application Canal FM, il y a aussi la chaîne YouTube qui rendent le Club La Presse audible et visible partout sur la planète Terre. Et si ce que nous disons dans ce studio parvient jusqu'à vous, c'est grâce aux techniciens Victor Bekoku, Michel Tomega et Gérard Kodjo Akucha. C'est également grâce aux confrères qui se font le devoir de nous accompagner quotidiennement et également aux personnes ressources. Mais notre plus grande gratitude, c'est à vous, vous qui nous écoutez seuls ou en groupe, à vos domiciles, hein, au bureau, un peu partout, hein, de Lomé à Vladivostok, en passant par Pyongyang et Buenos Aires, le Club La Presse, c'est parti. Le sage nous apprend aujourd'hui que bonne nature et bon sens doivent toujours se rejoindre. L'erreur est humaine, le pardon divin. C'est le poète Alexander Pope qui nous écrit ça. Bonne nature et bon sens doivent toujours se rejoindre. Si l'erreur est humaine, le pardon lui est divin. Mais pour philosopher, il faut être en bonne santé, n'est-ce pas, Gadiel Tchonyaji?
Absolument, il faut être en bonne santé. On est là pour nous donner à nous tous des conseils pratiques. Et bonjour à tous.
C'est-à-dire que Santé Éducation paraît aujourd'hui avec ses conseils utiles et pratiques.
Oui. On est là encore, en parution 747.
Tchonyadji, Gameli, Gadiel, Kokou, d'un Kokou à un autre, c'est Kokou Béni Sylvestre. Non, Kokou Sylvestre Béni, bonjour.
Oui, bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous.
Merci, un autre Kokou est en train de s'annoncer. Mais laissez-moi vous présenter plutôt le charme qui nous vient éclairer ce studio. C'est Estelle Koudjonou, bonjour.
Bonjour Sasso, bonjour confrères au studio, bonjour les techniciens. Je n'oublie pas les auditeurs et auditrices de Canal FM. Le plaisir est pour moi de les retrouver.
Merci à toi qui viens changer l'ambiance trop masculine du Club La Presse. Je suis très reconnaissant aux confrères, mais je voudrais également que l'équilibre naturel soit respecté, que nous ayons davantage de femmes, de journalistes femmes, qui commentent l'actualité sociopolitique avec nous. Le débat ne sera que plus équilibré. Joachim Loco, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux fidèles auditeurs, aux auditrices de Canal FM. Ravi de retrouver le Club de la Presse ce matin.
Surtout que tu nous apportes la toute dernière version du magazine La Matinée Internationale.
Oui, avec des sujets croustillants.
Eh bien, nous apprécierons. Et puis, le plateau qui est bouclé avec un autre Kokou, hein. Seulement, c'est un Kokou qui a bien, lui. C'est Patom Fabrice Pétiesi, bonjour.
Bonjour à toi, Sass. Bonjour aux confrères ici présents. Je n'oublie pas les techniciens. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent en ce moment.
On dirait que vous êtes donné rendez-vous pour vous retrouver ici, vous les natifs du mercredi. Heureusement, il y a moi lundi. Heureusement, il y a toi aussi, Estelle.
Moi, je suis de vendredi.
Vendredi. Comme ça, c'est plus diversifié et c'est tant mieux. Eh bien, commençons par ce souhait, ou bien oui, cette information sur laquelle nous sommes quittés hier, à savoir quand nous nous invitions à aller supporter les Éperviers d'âme qui jouaient le deuxième match retour qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer au Maroc en 2024. Et effectivement, les Éperviers d'âme ont reçu leurs homologues de la Tanzanie. Le match a été joué. Le Togo l'a gagné par 2-0. Mais comme l'écrit si bien le libéral, les éperviers d'âme se retrouvent éliminés malgré leur victoire. Estelle, quand tu as suivi le match hier, ou bien quand tu as appris le résultat qui éliminait l'équipe des éperviers du Togo, tes consoeurs, comment t'es-tu sentie, Estelle?
Ben, on ne peut qu'être malheureux, on ne peut qu'être triste eu égard aux résultats qu'elles ont obtenus. C'est vrai qu'elles ont gagné le match, mais cette victoire n'a servi à rien ou ne sert à rien, étant donné qu'elles sont éliminées de la course pour la CAN. Donc, je n'ai pas eu le temps de regarder le match de bout en bout, mais j'ai quand même suivi le résumé. Il y a eu des occasions vendangées, tout comme à l'aller. Et surtout le pénalty qui a été manqué, je crois que c'est là où on a été crucifié. Sinon, on aurait eu peut-être une chance qui nous aurait galvanisé, qui aurait dopé leur mental pour mieux continuer le match. Mais je crois qu'elles ont reçu un coup. Et puis voilà, donc in fine, c'est la déception totale. Je me dis, la question que je me pose, est-ce qu'on tire souvent les conclusions de tous nos échecs, de tout ce qu'on entreprend, surtout dans le domaine du football? Moi, j'ai comme impression qu'il y a un travail surtout qu'il faut faire au niveau mental, que ce soit du côté des femmes ou des hommes. La gestion des dernières minutes, certaines petites préoccupations, il faut souvent faire le point et essayer de rectifier le tir pour qu'on sente une nette amélioration au niveau des jeux à venir. À chaque fois, on regarde les mêmes erreurs, on a les mêmes préoccupations. Et ça ne nous avantage vraiment pas. Donc, déception, et on espère que prochainement, on va mieux nous armer pour affronter les compétitions à venir.
Mais une fois de plus, nous reportons nos espoirs pour la prochaine échéance pour les éperviers d'âme. Fabrice, toi qui traites cette information dans ton journal Le Libéral, le Togo d'âme qui s'est retrouvé éliminé hier, et on peut attribuer cet échec, cette élimination à deux facteurs. D'abord, c'est la terrible inefficacité de nos attaquantes devant les goals. Aussi bien au match retour hier qu'à l'aller, elles avaient eu beaucoup d'occasions qu'elles ont malheureusement vendangées. Ça, c'est d'un de deux. Au match aller surtout, nos éperviers d'âmes ont été bonnes. Seulement, elles ont eu quelques moments d'inattention, d'endormissement qui leur ont coûté ces trois buts à l'aller. Voilà les deux facteurs conjugués qui les éliminent.
Oui, et c'est malheureux parce que en réalité, ça aurait été plus intéressant que les éperviers d'âmes continuent sur la même lancée puisqu'elles étaient présentes à la dernière compétition. Donc, le niveau n'était pas mal. Naturellement, leur présence à cette seconde CAN aurait été vraiment un très grand acquis pour l'avenir. Mais moi, je crois que les éperviers d'âmes ont péché par excès de confiance. Parce qu'effectivement, quand vous prenez les 3-0 de l'autre côté, moi je me disais que les carottes étaient déjà cuites. Mais parvenir à une remontada qui s'est limitée à 2 buts, c'est là où on se rend compte qu'en réalité, que ce soit à l'aller ou comme au retour, on pouvait se sortir gagnant de ces deux confrontations. Et c'est un peu dommage parce que c'était quand même une très belle génération. Et puis n'oubliez pas que c'est des femmes, hein. Les femmes ne durent pas trop dans le football. Parfois, elles sont appelées à d'autres choses. Mais c'était...
Non, faut pas réduire ça en cesse.
Il n'a pas encore fini.
Restons dans le football, s'il vous plaît.
Il y en a qui peuvent être intéressés par une vie de famille, de couple, et puis d'enfants, tout ça. Et
concilier les deux, tout comme les hommes.
Oui, c'est pour cela que je dis, c'est pas si évident.
De revenir, en fait.
Oui, de revenir, en fait. En fait, c'est-à-dire que quand vous prenez une équipe masculine, elle peut être là sur une longue durée. C'est un peu ce que je veux dire. Oui. Parce que quand vous prenez le football féminin, déjà à 15 ans, c'est déjà bien. Et au-delà. Et surtout, il y a aussi la nature qui joue. Et les filles de l'Afrique de l'Ouest, par exemple du Togo, ont un postérieur un peu plus développé, par exemple... Oui, ça c'est des critères plus naturels. Elles ont un peu ce qu'on appelle l'embonpoint. Et donc, ce qui fait que plus l'âge avance, plus malgré le sport, l'embonpoint arrive. Ce qui fait que avec les équipes féminines, c'est pas la, c'est un peu difficile de se retrouver avec des équipes, enfin des joueurs qui ont une expérience de 15 ans en équipe nationale comme on peut en avoir au niveau du football masculin.
Merci, Fabrice a peut-être raison, mais on peut nuancer cela. Il y a le cas par exemple Cameroun, dont une dame Onguenée. Il y a également la capitaine du Nigeria, Oshoala, qui joue encore à un niveau très élevé à près de 40 ans. Et surtout au niveau mondial, il y a la grande vedette du Brésil, la dame Mata, qui a plus de 40 ans, mais qui continue à jouer. Et puis, entre-temps, des femmes aussi ont observé une pause, sont allées faire un enfant et sont revenues dans le football, comme la française Melvin Mala. Ça, tous les cas sont envisageables. Maintenant, quant au postérieur,
mais dans la majorité des cas, oui. Surtout après deux accouchements avec la maternité, on prend donc du poids, ça devient compliqué de
alors
continuer.
Justement, Sylvestre, laissez le temps aux footballeuses de faire leur carrière, après voilà. Vous ouvrez l'autre page.
Okay.
On se comprend.
Bon, on se comprend.
Merci beaucoup.
Par indulgence.
Eh bien, dans la même humeur, la bonne santé, nous ne pourrons rien faire sans une bonne santé. C'est pour cela que Santé Éducation revient sur cette information que nous avons déjà abordée au Club de la Presse lundi dernier. Il s'agit de l'ouverture, il y a quelques jours, de l'annexe de l'hôpital Dr Lafayette. C'est à la résidence Renaissance, ou si vous voulez, c'est le prolongement de la résidence du Bénin ou de la cité Ouya, ça dépend de l'angle que vous prenez. Information que vous nous rappelez avec les prestations de cette annexe de l'hôpital Dr Lafayette. Gadiel.
Effectivement, c'est une annexe qui a 16 spécialités, comme vous venez de le dire, spécialement placées pour les trois cités tout à côté, Millennium, Bénin et puis Renaissance, et puis les quartiers environnants, Edranawe, Viti, Fareva, entre autres. Donc, selon les initiateurs, c'est pour desservir tout ce coin de Lomé, parce que c'est des soins de qualité qui sont offerts là. Et c'est plus des salles d'observation qui sont là, et si il y a besoin d'hospitaliser des gens, ils seront évacués. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est un pas de géant que fait cet hôpital. Il faut le rappeler, qui est une conjugaison entre le public et le privé. Mm-hmm. Et ben voilà, l'information est dans Santé Éducation avec plus de détails sur toutes les caractéristiques techniques et hospitalières de cette annexe de Dr Lafayette.
Merci. Cette annexe qui propose 16 spécialités, dont entre autres la médecine générale, la cardiologie, la pédiatrie, l'ophtalmologie, entre autres. L'hôpital Dr Lafayette qui se rapproche de ses patients du grand public. Et c'est pas fini. Fabrice, tu étais à l'inauguration. Il a été dit lors de la cérémonie de lancement ou bien d'inauguration que d'autres annexes sont prévues, notamment à Blita, au centre du pays, et même à Accra.
Accra, oui, effectivement. Je crois qu'on, sur cette base, on peut dire félicitations quand même à la Caisse nationale de sécurité sociale pour ces initiatives. Surtout, penser à l'intérieur du pays, je crois que c'est quelque chose de capital. Parce que quand vous prenez la structure sanitaire, vous avez vu toute l'actualité il y a quelques semaines, pour une simple morsure de serpent, il y a eu tout un débat dans le pays. Et je vous avoue qu'il y a certains, à un certain âge, n'osent plus peut-être aller vers le nord pour des raisons liées au fait qu'ils ont certaines pathologies. Ils se demandent au cas où ça se déclenchait, qu'est-ce qui peut me soigner là-bas.
Alors justement, ça nous rappelle tristement le cas de l'ancien ministre Pierrot,
Kofi Panou,
qui s'était rendu chez lui à Kabou. Ouais. Il a eu une crise. Mais malheureusement, il n'y avait pas de plateau technique pour le prendre en charge. Ouais. Il en a cassé la pipe.
Oui, malheureusement, à 5 ans. Vous comprenez qu'il avait encore beaucoup de temps pour vivre. Alors, peut-être qu'il serait à Lomé peut-être qu'on aurait pu le récupérer un peu plus facilement. C'est vrai, comme on le dit, on attribue tous les décès à Dieu, mais il y a des décès où Dieu n'en est pour rien. C'est un peu la malchance d'être dans certaines circonstances, une certaine négligence, et voilà. Donc, de ce type d'hôpitaux de référence à l'intérieur, je crois que c'est une très bonne chose. Il ne faudrait pas que tu limites à Lomé.
Merci. Nous revenons maintenant à Santé Éducation. Un aliment qu'on nous a enseigné à l'école, que nous apprécions beaucoup, c'est le miel, n'est-ce pas, Gadiel?
Absolument, oui.
Sauf que votre article tombe bien. Et il y a quelques jours, j'ai surpris par trois fois un débat sur la qualité de bon miel. Alors, comment peut-on reconnaître un bon miel? Votre article nous parle de la couleur. On va passer de la couleur pour d'autres aspects également. Alors, comment peut-on reconnaître un bon miel par sa couleur, Gadiel?
Vous savez, ça fait au moins 3 mois que nous publions des articles chaque semaine sur le miel, mm-hmm. avec la complicité de Vétérinaires sans frontières Suisse, une géo Togo, chez qui nous allons prendre des informations, qui a un projet dans ce sens au Togo pour fournir du miel de qualité. Et la problématique du miel est la même que les huiles sur le marché. Ça veut dire que aujourd'hui, quand vous trouvez du miel sur le marché, faites extrêmement attention. On vante les qualités, mais ça peut être du faux, ça peut être purement du poison. Mm-hmm. Donc, voilà. Et aujourd'hui, nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Parce que les gens se posent cette question. Quand vous allez voir un genre de miel, c'est très noir, très foncé, brun, il y en a même un peu clair.
Tire même sur le jaune,
D'autres aspects très concentrés, un peu plus liquides. Alors, qu'est-ce que le public doit consommer? Qu'est-ce que le public doit choisir? C'est ça la question qu'on se pose. Et dans cet article, nous revenons sur les couleurs. Les couleurs de miel viennent de sa source. De quelle plante, quel milieu l'apiculture a été faite? Alors, là, donc, c'est de là que sort la couleur du miel. Donc, on doit plus apprendre sur le miel et savoir quel miel choisir pour notre consommation. Parce qu'aujourd'hui, on conseille d'aller vers le miel, mais il faut avoir du bon miel. Donc, quand c'est du miel genre forêt, avec du néré, avec un certain nombre d'arbres, ça donne une certaine couleur. Et c'est ce que nous devons comprendre et aller vers du bon miel. En tout cas, il y a des détails dans cet article avec même des adresses. On peut appeler pour avoir du miel de qualité.
Alors, je tire par là la conclusion que les vendeurs de miel devraient mettre une notice, pour ne pas dire une étiquette, sur leur bouteille ou leur boîte de lait, de miel, pardon, pour que nous sachions à partir de quelles fleurs, à partir de quels arbres ils ont produit leur miel.
Je ne vais pas faire une contre publicité, mais si quelqu'un va prendre du miel dans une bouteille neutre, il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas d'indication. Bon, ça, la personne. Parce que quand vous consommez que quelque chose vous arrivait, vous allez appeler qui? Donc, sachant faire le choix du miel aujourd'hui, j'ai dit au début, la problématique du miel est la même que les huiles sur le marché. Il y a beaucoup du faux. Il y a beaucoup du faux. Il faut faire attention.
Bien, la couleur du miel, est-ce que le miel doit être onctueux, un peu dense ou plutôt liquide? Est-ce que un miel qui émet un peu des bulles dans la bouteille, voilà. Est-ce que tout cela est bon? En spécialiste, lisez l'article de Santé Éducation, vous saurez tirer votre propre conclusion. Passons à un autre aliment que j'ai toujours mangé, mais dont je trouve beaucoup de vertus aujourd'hui. Il s'agit de ce que j'appelle dans ma langue azigokui, que le français appelle vuanzu. Je ne sais pas comment, Fabrice, dis-toi comment tu appelles ça en kabyle.
Soué.
Alors, le vuanzu ou bien l'azigokui, comme je l'ai dit, je l'ai toujours mangé depuis le berceau. Je ne savais pas que le vuanzu est un aliment pratiquement complet, Gadiel.
C'est complet, un aliment complet, voilà, c'est l'information. C'est un aliment complet, nous avons fait beaucoup de recherches, vous allez voir que nous avons fait le travail avec un grand phytothérapeute de la place. Le azigokui, un aliment que nous connaissons bien, mais rarement consommé par certaines personnes. On voit que c'est d'abord un aliment pour la santé des intestins. Vous savez, les intestins sont un organe important pour la santé où loge une bonne partie du système immunitaire. Et il y a d'autres révélations de vertus sur azigokui. Azigokui, bon pour ceux qui souffrent de l'infertilité Bon, c'est une solution pour la consommation. C'est bon pour renforcer l'immunité. C'est bon pour lutter contre un certain nombre d'infections. Donc, ce que nous consommons constitue notre premier médicament.
Oui.
Là, on doit le savoir. Donc, Azikoku, consommons Azikoku. Mais il y a des détails dans cet article qui doivent nous amener à savoir comment consommer cet aliment.
Mais déjà, sachant que le Azikoku, le Vuanzu, il est riche en micronutriments, en antioxydants et en protéines. Il a une teneur élevée de protéines qui en fait un excellent substitut végétal pour la viande. Ceux qui ne peuvent pas manger la viande, si vous mangez le Vuanzu, vous avez pratiquement la même chose. Et ce Vuanzu a également une faible contenance en matière glycémique. Il est recommandé pour ses bienfaits digestifs. Donc c'est bon pour la santé digestive, c'est bon pour la santé cardiaque, c'est bon pour la gestion de son poids.
Oui.
Et également pour les maladies, chroniques.
Oui.
Je vais vous raconter une anecdote. Il y a un grand et gros directeur qui a demandé à sa secrétaire de lui acheter du Vuanzu et de l'huile avec de la farine à midi. La secrétaire s'étonnait qu'un grand et gros directeur ne puisse manger que Azikoku avec d'huile et de farine. Je comprends maintenant pourquoi le directeur a pris ce choix. Parce que le Vuanzu est un aliment complet.
Un aliment complet, voilà. Et puis vous savez, ceux qui sont allergiques à l'arachide peuvent remplacer l'arachide par Azikoku, façon forme grillée, forme préparée. C'est bon pour ces personnes aussi.
Et puis surtout vous donner les différentes recettes pour la préparation.
Absolument.
Alors, il y a un autre directeur ici, il est un peu gros et un peu grand aussi, il veut intervenir dans le débat. Kokou Yoshinoko.
Quand vous dites que le Vuanzu favorise la digestion, moi, chez certaines personnes, en l'occurrence ma personne, mais si je prends le Vuanzu, j'ai tendance à être constipé. Bon, je ne sais pas si c'est une pathologie que je développe. Ou bien, soit je ne mange pratiquement pas de la journée.
Comme du haricot.
Le haricot. Oui, bon, vous savez.
C'est une question d'organisme.
Ouais,
aussi,
ouais.
Hein.
C'est peut-être que c'est chez vous, hein?
Oui.
Non, mais c'est vrai qu'il y a certaines personnes
qui même
elles prennent du haricot, ils se sentent constipés. Il y en a même la pâte, même le riz, ça dépend des organismes. Peut-être qu'il faut réduire la quantité. Peut-être qu'il faut réduire la quantité aussi.
Avec mon poids, je dois prendre beaucoup.
Mais prends un peu de Vuanzu complète avec d'autres aliments.
Voilà.
Alors, on revient à cette éducation pour terminer avec trois super aliments pour nettoyer nos artères. On ne le dira jamais assez, c'est les éternels aliments dont nous parlons, l'ail, le curcuma et le gingembre. C'est pour nettoyer nos artères.
Oui, souvent, c'est dans ces moments que les phytothérapeutes donnent ce genre de conseils. Durant toute l'année, nos consommations, nos aliments très gras et tout, et on sait que ça peut conduire à des dépôts à l'intérieur des vaisseaux sanguins. Mais il y a des aliments qui aident l'organisme à nettoyer les artères. C'est pas de la magie, c'est scientifiquement prouvé, et vous venez de citer ces aliments avec trois recettes par aliment pour nous donner la santé au niveau des vaisseaux sanguins.
Merci. Sans transition, nous abordons le contexte préélectoral avec les élections régionales et législatives annoncées. Du coup, on a commencé à sentir quelques partis politiques ou bien groupements de partis politiques. Hier, nous évoquions certaines positions postues. Nous continuons aujourd'hui avec cette revue de presse. Quand le libéral écrit que les cadres du parti uni affûtent déjà leurs armes, et d'un autre côté, c'est plutôt de la fébrilité qu'on observe dans les rangs de l'opposition. Le confrère, le journal La Dépêche, fait une observation à peu près similaire. La Dépêche qui écrit « Unis en campagne, l'opposition se cherche ». Autre journal, c'est Le Médium qui écrit lui aussi « Échauffement à unis, tergiversation dans l'opposition ». Et Actu Express, dans sa parution d'hier, écrivait déjà à la page 3 « Report des élections législatives ». La DMP, la dynamique pour la majorité du peuple, qui réclame un consensus politique avant même la tenue des scrutins, à savoir les élections régionales et législatives. Et aujourd'hui, c'est la manchette qui écrit lui aussi dans la position de certains partis comme la CPP, le MCD et le K, unis dans l'alliance Ensemble, donc l'alliance Ensemble et le K, hein, qui dénoncent ce qu'ils appellent le dysfonctionnement des institutions de la République. Ce groupe de partis demande à ce qu'on corrige au préalable le dysfonctionnement de certaines institutions de la République, dont la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, jusqu'à la Cour constitutionnelle avant les prochaines élections. Un autre article de La Manchette, qui est intitulé « Togo, l'impossible alternance par les urnes », c'est une question, mais l'article demande à s'interroger sur l'utilité, mieux sur l'opportunité même des élections au Togo, parce que l'article part de la position d'un acteur comme le professeur Togo Atta Apedouama, qui écrit, ou bien qui dit, qu'on ne chasse pas une dictature avec des bulletins de vote. Alors, Sylvestre Kokoubeni, commençons par ce dernier article, à lire cet article-là, c'est à se demander à quoi bon que les Togolais aillent encore aux urnes, n'est-ce pas?
Oui, en fait, c'est une réflexion que nous avons accouchée. Donc, en prenant en compte tous les éléments que nous avons connus jusqu'alors, parce que lorsque vous partez donc de la présidentielle donc de 93, c'est-à-dire la première avec l'avènement donc du multipartisme, vous verrez que depuis là, c'est toujours le régime qui gagne. Vous comptez bien, vous verrez que nous sommes déjà au-delà donc de 13 élections, y compris donc les législatives, les locales, la présidentielle. Mais je disais ce matin sur une radio, l'impression c'est que, en reprenant un footballeur allemand qui disait que le football est un jeu simple, 22 acteurs courent sur le terrain, mais à la fin c'est l'Allemagne qui gagne.
Non, c'est plutôt le joueur anglais Gary
Lineker. Gary Lineker, voilà, qui disait justement cela. Et donc,
sauf que l'Allemagne ne gagne plus cette dernière.
L'Allemagne ne gagne plus, mais vous prenez donc contextualiser, vous prenez donc au Togo, c'est-à-dire que les élections, c'est en fait un jeu simple. C'est plusieurs acteurs sont enthousiasmés, tout ça, mais à la fin, c'est le régime qui gagne. Vous voyez? Et donc, vous prenez toutes les élections et ça a souvent donc drainé des espoirs, des convulsions, des énergies vives, des passions et tout. Mais à la fin, c'est le régime qui estime avoir gagné. Je corrige. Hein, ce n'est pas le régime qui gagne, mais c'est le régime qui estime toujours avoir gagné.
Et l'espoir. Le régime fonde sa position sur les résultats que proclame la CENI et que conforte la Cour constitutionnelle.
Et justement, ces deux éléments, nous allons revenir là-dessus. Alors, vous prenez surtout l'élection de 1994 qui a véritablement donner de l'espoir aux Togolais, parce qu'on se dit les législatives de 94 avec le cas qui a eu, je crois, à l'époque 35 députés,
36,
le RPT qui a 5 et l'UTD qui a 7. Ils devaient fusionner à l'époque pour mettre donc le pouvoir en minorité, mais Yadema a toujours réussi à reprendre donc le poids de la bête et nous en sommes là. Et c'est à partir de ces éléments-là que la constitution a été modifiée plus tard. Le général s'est donné donc une présidence à vie. Alors, vous prenez tous ces éléments, les Togolais sont passionnés, ils vont, mais à la fin, c'est le régime qui gagne. Donc, nous sommes dit, est-ce qu'il ne faille pas repenser, en fait, ces élections au Togo? Vous voyez l'engouement aujourd'hui, hein, l'opposition est souvent encore en totale hibernation, mais avec l'annonce des élections, on se réveille, on y va, on revient, après on nous dit, soit on nous a volé, soit le régime a triché, et puis bon, le cycle recommence. Alors, c'est en fait l'idée donc de l'article. Est-ce qu'il ne faut pas penser autrement? Et donc, Apedo Abma aussi qui disait que, oui, on ne chasse pas une dictature avec des bulletins de vote. Maintenant, il faut chasser la dictature avec quoi? C'est la question là que nous nous sommes posés. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'il faut sortir, certains passent dans un tsunami populaire? Mais qu'est-ce que les Togolais n'ont pas fait? Depuis donc 90 jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ont malheureusement donc donné leur vie pour cette politique-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Je crois que j'invite donc les lecteurs à lire.
Nous avons
quand même proposé des pistes. Voilà.
Nous amener à poser des questions. Ouais. Sauf que, Joachim Loko, c'est vrai que depuis l'ère démocratique, depuis la présidentielle, d'août 1993 jusqu'aux élections qui se profilent à l'horizon, à part la parenthèse des élections législatives de 1994 que le CAR et l'UTD n'avaient pas su d'ailleurs bien gérer, c'est le régime au pouvoir, RPT-IR, Unir toujours qui gagne. Et comme le disait tantôt Sylvestre, hein, les perdants ont toujours contesté, voire attribué ceci ou cela au pouvoir. Sauf que les opposants, les perdants, n'ont jamais beaucoup regardé dans leur rang pour savoir si la cause de ces échecs-là n'émane pas d'eux-mêmes, individuellement ou collectivement.
Oui, là, cette question est légitime, mais cette question doit faire réfléchir beaucoup plus l'opposition, parce que à part les élections de 1994 que l'UTD de le cas d'Aboibo avaient gagné, ils avaient mal géré et l'élection, ils avaient mal géré les résultats et Adéman a su tirer son épingle du jeu. Depuis cette élection, là, il faut que l'opposition est en train de se déchirer. Quand nous voyons le landerneau politique du côté de l'opposition, c'est au lieu de s'attaquer au pouvoir, de mettre en place des stratégies pour pouvoir faire peser la balance ou bien inverser la tendance, c'est plutôt les luttes pour le leadership.
Les luttes intestines
bizarres sur les réseaux sociaux, les gens qui se combattent. Donc, moi, je pense quand même que l'opposition laisse l'ombre pour la proie.
Il abandonne la proie pour l'ombre.
Et là, je pense que les partis de l'opposition doivent réfléchir comment faire. Puisque à chaque fois, vous dites qu'on nous a volé. On nous a volé, mais vous êtes incapable de brandir la moindre preuve qu'on vous a volé. Je pense quand même qu'on peut faire des erreurs, mais quand on fait des erreurs à répétition, il y a quand même lieu de s'interroger sur son efficacité, sur ses stratégies. Et donc, ces élections qui se pointent à l'horizon, quand que les opposants doivent quand même redoubler d'ardeur, mettre en place des stratégies pour inverser la tendance, pour qu'une fois, on dise qu'au moins que l'opposition aussi a gagné.
Merci. Eh bien, Estelle, il y a cet article que la manchette base sur la réflexion de Togo Atta, entre autres, mais il y a également les positions le groupe Alliance Ensemble, à savoir la CPP, le MCD, et notre parti aussi,
LDP,
qui viennent d'être rejoints par le CAR.
D'un le côté, CAR estime qu'il ne fait pas partie de l'Alliance.
Alliance Ensemble Alliance et le CAR. Il y a le groupe là, il y a également la DMP qui demande déjà le report des élections annoncées avec des préalables. Il y a également un autre parti, l'ANC, qui soulève des critiques d'ici là. Alors, cet ensemble de préoccupations, somme toute légitimes, est-ce que cela ne pourrait pas avoir des effets démobilisants à l'endroit de leurs électeurs pendant que nous acheminons déjà vers les élections?
Il ne faut pas conjuguer le verbe au futur, il faut le conjuguer au présent. Ça démobilise déjà. J'ai rencontré des gens dans la semaine suite à la sortie de Ensemble et CAR qui disaient « mais on ne va plus être dans un éternel recommencement ». C'est-à-dire le schéma se dessine déjà. Annonce des élections, on cherche des arguments un peu pour, au lieu d'aller directement droit au but, on contourne les choses finalement, on laisse la priorité de côté pour s'occuper des choses un peu futiles et ça recommence. Moi j'ai été surpris,
nous avons dans tous ce sens.
Non, il faut quand même dire que
pas futile parce que la Cour constitutionnelle doit
préoccupation que soulève ces pratiques sont légitimes et fondées.
On a tous déploré le fait que la date des élections n'ait pas été fixée depuis l'annonce de ces échéances-là. Nous sommes tous d'accord. Maintenant que la date est annoncée, La date n'est pas encore fixée, je suis d'accord, mais la période est indiquée.
Voilà.
Le premier trimestre, nous sommes aussi d'accord là-dessus. Pourquoi l'opposition ne commence pas déjà par s'armer pour mieux maîtriser sa stratégie et démontrer autre chose à l'avenir? Tel que ça a commencé, j'ai comme impression qu'on va rester encore sur des discussions un peu je ne sais pas, ils vont pas porter des fruits, forcément. Et on va laisser encore l'essentiel à côté pour se focaliser sur ces différents-là. In fine, il n'y aura pas de résultats concrets. On ne va rien retenir. Et le pouvoir va encore passer. Ça va se passer comme une lettre à la poste. Donc, pour moi, il faut se focaliser sur cette droite ligne-là qui est donnée et commencer par mobiliser la base, commencer par la sensibilisation, commencer par dérouler en fait sa stratégie pour renverser en fait la tendance ou pour prouver aujourd'hui faire les choses autrement et susciter un peu de l'attention au niveau des militants. Sinon, sincèrement, des questions se posent, on ne comprend vraiment rien au niveau de l'opposition.
Alors, ce contexte-là illustre très bien les titres de vos journaux. Fabrice, quand le libéral écrit par exemple que les partis, les cadres du parti unis affûtent leurs armes, alors que dans les rangs de l'opposition, c'est plutôt une certaine fébrilité qu'on note. La Dépêche, lui aussi, écrit que Unis est déjà ouvertement en campagne et que l'opposition se cherche. Et le Médium lui-même parle de échauffement à Unis, pendant que dans l'opposition, c'est encore des tergiversations. Eh bien, ces articles de journaux illustrent parfaitement le contexte préélectoral.
Oui, vous comprenez que... Alors, tout à l'heure, on a dit que c'est toujours le parti au pouvoir qui gagne. La question est de savoir, est-ce qu'il croise les bras? Est-ce que c'est un enfant gâté qui est là dans son coin et puis après on l'appelle, on lui dit, bon, c'est toi qui as gagné? Et quand vous observez l'histoire sociopolitique de notre pays, vous allez comprendre beaucoup de choses. Dans les années 90, on peut dire qu'il y avait un certain équilibre des forces. Et vous avez vu un peu l'allure qu'a pris les élections qui ont suivi cette période-là. Vous avez donné tout à l'heure les résultats à l'époque, 35 pour le grand RPT, 36 pour le K, et puis 7 pour l'UTD de Demkojo. Et il ne faudrait pas oublier aussi mon ami Payadoua Boupessi qui avait également 2 sièges, qu'il est allé sous-traiter
pour l'Assemblée. Ah oui, il émergeait à l'époque, là, dans les rangs de l'opposition.
Oui, donc ça voudrait dire que lorsque le RPT...
Le parti, c'était le parti l'unité et la justice. Oui, donc, avec un de ses camarades, là...
L'ancien ambassadeur.
Donc c'était des...
Non,
par rapport au quart qui avait 36. Et vous avez vu comment Payadoua Boupessi a joui de ces 2 sièges-là, même jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on lui a été reconnaissant. Pour ceux qui le connaissent, c'était un opposant.
Oui.
Il gagne 2 sièges à Sotoubois, et ces 2 sièges-là, ben, ce qu'il en a fait, nous sommes sur un terrain politique. Alors donc, à l'époque, et vous allez voir au fil des temps, aujourd'hui, quand on me parle de l'opposition, mais tous ces gens-là ont rejoint le pouvoir. Quand vous, toutes les matières grises de l'opposition de l'époque, c'est-à-dire un à un, ça a commencé par Kofi Go, un à un, tous ont regagné carrément le camp du pouvoir. Et à un moment donné, c'était presque des coquilles vides. Et aujourd'hui, quand on parle des partis politiques de l'opposition, on n'a pas encore de parti politique vraiment assis qui peut tenir. Souvenez-vous de l'ex-Union de Force de Changement. Lorsque l'UFC était UFC, si je peux me permettre de parler comme cela, oui. Mais quand on dit il y a élection, le pouvoir ne dort pas.
Ne dormait pas.
Il ne dormait pas du tout parce qu'il savait qu'il avait en face un adversaire coriace. Mais vous prenez des gens comme Maître Agboibo, mais c'était des gens politiquement craints. Mais aujourd'hui, leurs descendants, quand je vois un daté qui n'a pas encore réussi à changer le moteur de son car qui fume, bon, et qui, bon, voilà, ses premières sorties, c'est décevant. Moi, il n'a pas le charisme pour gérer le cas. Il faut le dire.
Là, c'est observation de journaliste.
Je ne parle pas en votre nom. Je parle à mon nom. Et donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas conclure tout de suite que c'est sur la base des fraudes, seulement que l'autre gagne. Parce qu'il faut une certaine remise en cause aussi des partis de l'opposition. Et quand vous les prenez, vous sentez qu'il n'y a pas une organisation. Voilà des gens qui attendaient des élections, qui ont raté des élections précédemment et qui ont dit la prochaine fois, on ne va plus se faire avoir. Maintenant, on annonce une période pour les élections. Bon, et vous êtes là à tergiverser sur... quand vous refusez de céder. Futilité, puisque finalement, vous irez à cette élection-là, ou soit vous n'allez pas. C'est la même chose. Donc, moi, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait également que les partis politiques de l'opposition fassent une certaine remise en cause de leur côté. Parce que quand vous prenez... Il y a une évolution. Dans les années 90, on allait en bulletin multiple. On a dit que c'est par là que les fraudes passaient. On est allé au bulletin unique. Il y a eu, après, on dit non, que ce n'est pas bien qu'on ferme les urnes vers 18h. On a ramené à ce... C'est-à-dire, toutes les fois qu'ils soulèvent des éléments, on règle ça, mais les résultats ne changent pas. Conclusion, les victoires...
Oui, pour l'histoire, on disait également que le pouvoir fraudait par les cartes d'électeurs. Maintenant, nous sommes passés... à la carte d'électeur biométrique.
Mais c'est toujours le même résultat. Conclusion, les victoires du pouvoir, ça ressemble au ballon d'or de Messi. Il y en a qui pensent que c'est mérité. Quand vous êtes catalan, c'est mérité. Et quand vous êtes de la Maison Blanche, c'est que c'est des ballons d'or volés.
Et c'est des natures. Il est aussi Coucou Sylvette, c'est vrai hein, que sur le fond, bon nombre de préoccupations que soulèvent les partis de l'opposition, l'Alliance Ensemble, la DMP et même le CAR, même plutôt l'ANC, leurs préoccupations sont légitimes et fondées. Sauf que ces élections régionales législatives avaient été annoncées pour l'année 2023. Nous, la presse, on s'est plaint qu'on n'ait pas pu le tenir. Mais ces élections annoncées maintenant pour le premier trimestre 2024 et ces partis ressortent encore ces préoccupations dont une autre, à savoir le découpage électoral que l'ANC demande de revoir à quelques semaines, voire à quelques jours du démarrage éventuel. Alors, sur ce débat de découpage électoral, il y a ce titre du confrère Togo Matin qui est intitulé « Solder le débat sur le découpage électoral ». Eh bien, Sylvain, alors, toutes ces préoccupations que ressortent les partis de l'opposition, est-ce que ça ne risquerait pas de mobiliser ne serait-ce que leur propre électorat éventuellement ?
De démobiliser.
Démobiliser. Et démotivé, pourquoi pas?
Oui, c'est possible. Mais il faudrait quand même qu'on puisse faire la part des choses. C'est vrai que toutes ces revendications sont légitimes. Le découpage électoral, c'est tellement donc abordé. Même la PG en a parlé.
L'accord politique global.
De 2006
déjà.
De 2006 déjà. Donc ça fait des années. Même, c'est pourquoi je dis, la limitation du mandat à deux et les élections à deux tours, l'accord politique global l'avait évoqué. Mais le régime est resté silencieux jusqu'à 12 années. Il a fallu un certain typique pour aujourd'hui qu'on ait donc la limitation à deux et le mot de scrutin à deux tours. C'est pourquoi lui disait qu'au moins lui, il a eu une victoire d'étape. Voyez-vous?
Sauf qu'il n'est pas venu.
Malgré les deux tours, il y a un tout chaos.
Donc, c'est dire que. Nous nous sommes même plaints ici que l'opposition, entre-temps, il y avait une période donc, d'hibernation. Et à l'époque, je me disais, même si c'était une capitulation. Maintenant, les gens sont restés silencieux et à quelques semaines, disons, donc des élections, on ressuscite donc les débats qu'on devait poser et sur lesquels on devait être beaucoup plus d'attrait à l'époque, avant qu'on arrive donc à quelques jours donc, des élections. Maintenant, on repose donc le problème donc, des découpages électoraux. Je l'ai dit, c'est normal. Le problème de la Cour constitutionnelle, c'est également normal parce que c'est une Cour constitutionnelle incomplète maintenant qui avait prêté serment, je crois, en mai 2019. Ils étaient sept. Normalement, ils devaient être neuf. Mm-hmm. Et ben aujourd'hui, malheureusement, le président est décédé. Je crois qu'il y a aussi un membre qui aussi n'est pas là. Donc, de sept, ils sont revenus à cinq. Or, ils devaient être neuf.
Et surtout, même les cinq n'ont pas de président.
Justement. Maintenant, je crois que on doit également... revoir cette instance-là, et donc pour qu'ils deviennent au moins les neuf, parce que quand il y aura contentieux électoral, c'est eux qui doivent connaître donc ce litige, ou du moins ce contentieux. Maintenant, quand ils ne sont pas en nombre, c'est-à-dire constitutionnellement, ils ne sont pas donc en nombre donc de connaître donc de ces contentieux, donc il y a également problème. Nous prenons également le cas de la CENI. La CENI, son mandat est arrivé à terme depuis avril-mars 2023, depuis plus de 9 mois. Maintenant, c'est cette CENI indûment, qui continue donc indûment, et que le chef de l'État a instruit de donner un chronogramme et d'aller aux élections. Là aussi, ça pose un problème, parce que, disons, pour caricaturer, en fait, c'est une CENI fantôme qu'on ressuscite pour aller aux élections. Donc ça aussi, il faudrait donc revoir le jeu, pour que le jeu soit clair. C'est vrai que l'éternel débat donc de CENI politique doit revenir, parce que à chaque fois que vous êtes envoyé par votre parti politique, vous risquez donc d'être redevant dans votre parti. C'est pourquoi la CENI, ça n'a toujours pas marché. Donc, il y a tellement donc d'éléments. Hein, la Cour des comptes, c'est vrai qu'ils ont sorti donc un beau document que tout le monde a apprécié. Mais la Cour aussi est arrivée donc à l'expiration. Il faut revoir également la Cour des comptes. Donc, il y a tellement donc d'institutions de la République qui sont peut-être hémiplégique ou tétraplégique. Je ne vais pas parler de la RAC. Oui. Vous voyez, donc il y a tellement donc, de choses qui sont là que... Mais je ne vois pas pour l'instant. Bon, ça, c'est peut-être mon avis. Pourquoi le coalition parle de la RAC? Bon, on dirait peut-être que lors des campagnes, il faudrait que la RAC fasse le jeu. Mais la RAC qui est là peut continuer les affaires courantes. Vous voyez, c'est pour ces éléments-là.
On a l'impression que l'opposition est malade, mais elle ne sait pas de quoi elle souffre. Quand on me dit, bon, il n'y a pas de problème. Quand il y avait le président de la Cour constitutionnelle, ça avait changé quoi dans votre destin? Ça voudrait dire que vous ne cernez pas là où se situent vos difficultés. Président de la Cour constitutionnelle, on peut le nommer aujourd'hui, ça va changer quoi dans votre destin?
Donc voilà, donc je crois que...
Il faut poser les vrais problèmes de l'opposition et chercher à les régler. Oui, on peut changer le président de la RAC. Ça va changer quoi?
Oui, mais il faut que les textes soient respectés.
L'opposition, c'est pas seulement l'opposition qui est intéressée par les institutions. Ce que je dis, moi, j'ai mon problème personnel. J'ai un problème personnel. Mais aujourd'hui... Bon, le problème personnel que j'ai, c'est pas la nomination du président de la Cour constitutionnelle qui règle moi mon problème. Quand le nomme, c'est bon, il faut qu'on le nomme. Mais c'est pas sa nomination qui règle mon problème, c'est ce que je suis en train de dire.
Oui,
c'est une impression.
Mais il faudrait quand même qu'on puisse respecter les textes. Mais au-delà, je crois que l'opposition aussi doit beaucoup de choses à se reprocher. Il faudrait qu'on le dise clairement, parce que si vous faites des choses encore et encore et que le résultat n'y est pas, à un moment donné, je crois que c'est Einstein qui disait que c'est une folie de faire la même chose encore et encore et de s'attendre
à un résultat différent. Donc, voilà. Il faut être un peu malin. Il y a un piège. Vous êtes là à dire non, il faut qu'on nomme au niveau des institutions, et vous avez posé d'autres revendications qui sont également ça, la nomination du président, ça c'est déjà acquis, il faut qu'il le fasse. Mais là vous allez faire ça, un jour on va venir vous dire bon, vous avez plusieurs revendications, nous avons satisfait à celle-ci, nous avons nommé le président de la Cour suprême, on peut pas prendre tout, voilà ce qu'on a fait. Ça vous n'en avez pas besoin.
Il y a un dernier élément qui est important, oui, également de souligner. Je crois que c'est vrai qu'on reproche un certain nombre à l'opposition. Mais l'opposition, il y a certains qui veulent aller déjà sur le terrain pour commencer à travailler. Mmh. Mais on le pose déjà des bâtons dans leur roue. Mmh. Le FDR veut faire une activité donc à Chevier. Le préfet de la localité a refusé. Vous voyez, le parti au pouvoir a inondé donc le pays. Vous voyez,
par exemple, la dépêche. Quel journal écrit? Bon,
c'est la dépêche.
Non. Le libéral dit, les cadres du parti uni affûtent leurs armes. Oui. Et ces armes-là, les gens de uni n'affûtent pas leurs armes dans leur bureau. Hein. C'est sur le terrain, oui, c'est sur avec les populations. Alors, la dépêche qui écrit, uni est en campagne. C'est les gens d'uni, on les voit tout le temps. Si vous allez dans votre village le week-end, vous allez voir...
Et jamais un préfet n'a refusé à un parti uni.
Quand les gens de l'opposition veulent aller sur le terrain... Le ministre ici à Lomé ou bien les préfets trouvent toujours des raisons pour leur opposer un refus.
Je pense quand même qu'il faut qu'on soit clair, nous sommes en démocratie, et donc si nous sommes en démocratie, on doit laisser tout le monde, surtout que nous sommes à l'approche des élections, on doit laisser tout le monde aller sur le terrain, battre campagne, quitte à l'opposition de ne pas user de très bonnes stratégies et d'échouer. Maintenant, si
pourquoi
le pouvoir...
Pourquoi pas le parti au pouvoir?
Oui, si...
bon, pourquoi il fait une fixation pour l'opposition?
Oui. Maintenant, si le pouvoir aussi use de subterfuges pour pouvoir empêcher, ou bien, quand je dis le pouvoir, parce que c'est le pouvoir qui dirige, les ministres sont ici du pouvoir, les préfets aussi sont quand même un peu redevables au ministre de l'administration.
Ils sont redevables.
Au ministre de l'administration territoriale, oui. Maintenant, empêcher les opposants d'aller, d'aller en campagne ou d'aller auprès des militants pour aller leur donner leur message. Je pense quand même que le pouvoir aussi doit revoir son copie.
Oui.
Ou bien sa copie plutôt. Le pouvoir doit revoir sa copie et essayer de favoriser le terrain à l'opposition.
Pour que le jeu soit équilibré.
Le jeu soit équilibré pour qu'en mars. Qu'on sache qui est qui.
Pas favoriser.
Alors justement,
pas
Estelle,
favoriser le terrain. Estelle, libérer le terrain.
Des fois,
pas favoriser.
On peut comprendre la position des opposants. On a des fois l'impression que le pouvoir biaise un peu le jeu en favorisant son parti, mais
en empêchant
quand même les partis de l'opposition également d'aller.
C'est le jeu politique. Hein. C'est le jeu politique. Chez nous, on dit c'est la manière dont tu t'entends pas. C'est comme ça que tu vas recevoir la force de la gifle, en fait. Donc, l'opposition tente à temps, le pouvoir gifle, tout simplement. Ça s'arrête là.
Et il se passe rien.
Oui, il se passe rien. Excusez-moi, mais elle ne fera rien. Il faut se demander. Quand l'opposition raconte tout ça
le micro.
Dit tout ça, quel est aujourd'hui, en fait, son élément pour empêcher ces élections-là, si David...
Non, je ne dis pas d'empêcher. C'est plutôt le pouvoir qui empêche les partis de l'opposition de descendre sur le terrain, d'aller à la rencontre de leurs militants. C'est cela,
justement. J'aurais aimé savoir d'abord le motif de l'empêchement pour la réunion de...
Ce qui a fait que le préfet de Zioa a interdit au FDR...
Bon, pourquoi vous dites que le préfet de Zioa est du pouvoir? Ça, c'est aussi la question.
Bah, il faudrait pas...
Qui l'a nommé?
Bon, la question, vous la donnez...
Tous les agents de l'administration sont du pouvoir.
Le
raisonnement qu'on a au Togo, tous les agents de l'administration sont du pouvoir. Vous sortez tout à l'heure, un policier vous crée des problèmes, c'est le pouvoir. Moi, je crois qu'il faut, commencer par situer les responsabilités et punir les gens sur le faux. On parle du préfet de Zio. Il faut qu'il nous explique pourquoi il a empêché les FDR de faire leur meeting. S'il n'a pas des raisons valables, il faut que l'autorité frappe. C'est tout. Mais c'est trop facile de dire que le pouvoir... C'est comme ça, les gens parlent au nom du chef de l'État partout. Parfois, il n'est pas au courant.
S'il n'est pas au courant, il n'a qu'à réagir.
Le pouvoir,
c'est trop facile de dire que le pouvoir. Il faut situer les responsabilités.
Oui,
le problème aujourd'hui, c'est que l'opposition est éteinte.
L'opposition
ne fait plus peur.
L'opposition
ne fait plus peur.
C'est ça aussi le.
Mais il faut donner la chance égale quand même.
Oui, ça c'est clair.
Mais que tout le monde puisse arriver sur le terrain. Vous ferez qu'on mette 3 points de suspension. Il me reste juste 5-6 minutes. Qu'on aborde quand même la diplomatie du climat. Avec la COP28 qui s'est ouverte à Dubaï depuis quelques jours, le Togo y est fortement représenté par le chef de l'État et des ministres des ONG. Alors, revue de presse sur le sujet, le messager qui écrit « Quand les actions du Togo font école à Dubaï », la dépêche titre « Forni Assimbé engagé pour une transition énergétique au Togo ». Mais le Mania Libéré prend acte de tout ça, mais dit « Assez des déclarations, décaisser les fonds. Un fonds vide ne peut pas aider nos citoyens. » Estelle, on peut même s'étonner que Forni Assimbé se trouve à Dubaï depuis plusieurs jours, parce qu'il y a quelque temps, quand on l'écoutait, il se montrait d'une certaine façon sceptique vers ces forats où on parle beaucoup, où on ne fait pas grand-chose. Mais lui-même, il s'y trouve depuis pratiquement une semaine. Alors, est-ce qu'il a des raisons maintenant de ramener au pays des résultats concrets de sa présence à Dubaï?
Forcément, je me dis, s'il n'a pas d'intérêt, il va pas s'y trouver, il va pas y rester pendant longtemps. Donc, on a vu les reportages, ces différentes rencontres, ces différentes découvertes. Maintenant, on croise les doigts pour que ces différents modèles soient peut-être transposés ici chez nous et que les citoyens peuvent en bénéficier. Sinon, on aurait juste vu qu'il a effectué un déplacement, une visite, mais quelles sont les répercussions sur le pays? La question va se poser. Mais si, à son retour, on voit des prises d'initiative allant dans le même sens, on aurait compris qu'effectivement...
Vous allez attendre longtemps.
C'est toi qui le dis. Une fois encore, c'est un point d'intention. Attendons de voir son retour.
Vous allez attendre longtemps.
Et on va mieux apprécier.
Mais déjà, depuis là-bas, Dubaï, il est annoncé que le Togo a, avec son partenaire Abéa, pour l'extension de la centrale solaire de Brita.
C'est la politique des grandes annonces.
Oh, et donc toi, tu attends quoi?
Il n'y aura rien. Moi, savez, tout ça là, c'est la balade des gens heureux. Mais, parce que moi, j'ai vu un président très décontracté qui prenait sa tasse de thé.
Mais Brita, c'est une réalité, non? Oui, c'est une réalité. Brita produit 70 mégawatts. C'est une réalité.
Ça travaille encore.
Mais, le méridien.
Et puis,
le projet méridien avec EDF France.
La centrale de Brita.
Oui, oui, ça travaille encore.
Elle travaille.
Oui.
Mais quand on veut l'étendre,
je ne travaille pas. L'objectif du Togo, oui, c'est de réduire à de 8 points les gaz à effet de serre et d'ici l'horizon 2030
d'atteindre... Tu as seulement les statistiques, il n'y aura rien.
Vous savez, je vous dis, c'est-à-dire en dehors des énergies fossiles qui polluent l'environnement énormément, il faut aussi des énergies renouvelables comme la centrale photovoltaïque de Blita. Dont le gouvernement est en train de signer les protocoles d'accord à Dubaï pour pouvoir faire l'extension de cette centrale-là, pour que nous puissions atteindre le mix énergétique.
Et toi-même, tu crois à ça?
C'est des choses palpables.
Oui, Fabrice.
C'est des choses palpables. La centrale de Blita existe.
C'est une réalité.
C'est une réalité. Il faut élargir et faire l'extension.
Moi, généralement, ces débats sur l'environnement m'embêtent un peu. Parce que voilà des gens qui ont eu de l'avance sur d'autres continents, qui ont eu le temps de se développer, qui ont tout fait. Et aujourd'hui, maintenant,
ils disent qu'ils se reposent
et qu'ils nous demandent d'aller à leur rythme alors que nous, on n'a encore rien construit. Donc, quelle est la part de pollution de l'Afrique au niveau du monde entier? C'est presque nul. Moi, je crois qu'il faut qu'on nous donne l'occasion de nous développer également. Après, on fera le débat sur l'environnement.
On sera à leur niveau.
Ouais, il faut qu'on le fasse. Parce qu'on ne peut pas. Ils ont déjà tout fait. Et aujourd'hui, bon, ils pensent à l'environnement. Nous, on n'a rien fait. Nous, on est encore à l'état de nature. Et donc, moi, c'est des rencontres. Oui, il faut y aller parce que vous croisez les grands et vous nouez des partenariats et tout cela et autres. Mais je crois que sur ce sujet, nous n'avons pas le même problème.
Merci. Il nous reste une minute. On va l'accorder à Joachim pour partager avec nous quelques articles phares du magazine La Matinée Internationale qui vient de sortir pour la fin de l'année.
Oui, le magazine est dans les kiosques depuis quelques jours. C'est un magazine panafricain qui est vendu. Ah,
le panafricanisme à la côte actuellement. Hein.
Oui, puisque okay.
Ça fait vendre. Mot magique actuellement.
C'est le mot magique. En tout cas,
il était panafricain depuis.
Le magazine était panafricain depuis.
Avant la naissance du panafricain.
Il est en mode juste.
Et donc, le magazine est vendu dans les pays de l'Yomoua. Dans notre nouvelle parution, nous avons parlé de la CEDEAO dans l'édito, le suicide collectif avec des décisions à géométrie variable de la CEDEAO, surtout avec cette décision de faire la guerre à la junte au pouvoir depuis le mois de juillet. Et donc, par rapport au coup d'État constitutionnel, la CEDEAO ferme les yeux et quand les militaires reviennent sur le champ politique, on essaie de les sanctionner et choses. Et là, nous sommes arrivés à la conclusion que si nous ne prenons garde, on s'achemine tout droit vers un suicide collectif au niveau de la CEDEAO.
Mais vous intéressez également d'autres personnalités comme le doyen Gervais Kofi Gbondiré Diondo, hein, une fierté pour l'Afrique.
Oui, c'est le doyen Gervais Kofi Diondo, c'est un doyen plutôt qui a fait ses preuves dans l'entrepreneuriat en Afrique. Et le problème généralement en Afrique et en particulier chez nous au Togo, c'est que les gens de leur vivant, on ne leur rend pas hommage. Et c'est quand ils meurent qu'on leur rend hommage à titre posthume. Alors que ce monsieur-là, c'est toute une bibliothèque. La jeunesse africaine doit aller à son école. Et nous, le magazine a pris sur lui le devoir de lui rendre hommage de son vivant.
Tout comme vous rendez hommage également à une dame, Madame Faramamien Kadje, qui a fait une grande carrière de secrétaire ou bien d'assistant de direction, qui vient d'être portée à la tête d'une coordination Synergie des femmes d'action. Elle aussi, je ne sais pas si vous la célébrez, mais vous parlez d'elle de son vivant.
Oui, on parle d'elle de son vivant parce que c'est des dames qui sont en train de se battre pour que l'image de la femme en Afrique soit beaucoup plus reluisante.
Merci. D'autres personnalités hein, comme docteur Michel Kodom, Yahi Boni au Bénin, Une vie après le pouvoir. Et vous intéressez même à Donald Trump, que vous estimez que des gens voudraient, enfin, quand on veut écarter Donald Trump par la voie judiciaire, d'autres articles
que je voudrais dire que ce n'est pas seulement en Afrique qu'on a tendance à écarter les adversaires, hein. Même aux États-Unis, en Europe, ça se fait. Nous sommes en politique.
Mais c'est pas un bon exemple.
Le contraire m'aurait quand même surpris. Et ça se fait un peu partout.
Oui, nous sommes en politique. Sauf que là-bas, on demande seulement à Donald Trump de venir rendre compte de certaines choses.
Voilà. Et
C'est aussi ça la démocratie. Mais on voudrait faire comprendre aux gens que ce n'est pas seulement en Afrique que dans le champ politique, il y a des coups qui se donnent. Même en Europe, aux États-Unis, la démocratie avance.
Merci. Et puis ces femmes qui émergent au Togo, Victoire Sidemeho Dominga Dobe, Chantal Ayawa Jigbori Tchegan, Ingrid Atafenam Awade, Sandra Blamba Rufavi Johnson, Florence Yawa Hofa Kuigan, ces femmes qui émergent.
Nous avons
aussi une femme qui émerge chez nous,
c'est Estelle
qui tient valablement le débat sociopolitique devant des journalistes.
Peut-être que la prochaine fois il parlera donc de Brigitte Ajamagbo Johnson.
Merci. Il est midi, parce que 3 minutes nous manquons notre pause et nous rebondissons bientôt avec les auditeurs.
93.5 Canal FM.
Eh bien, c'est parti. Nous avons parlé santé, nous avons parlé du contexte préélectoral. On a commencé par cette victoire des Éperviers d'armes qui n'a pas suffi à ce qu'elle continue pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2024. À présent, la parole est à vous. Premier auditeur, bonjour. Allô?
Salam alaikum, monsieur Sass.
Bonjour, monsieur Waris.
Bonjour, monsieur Sass. Je vous salue tout le plateau.
Oui.
Oui, les Éperviers d'armes n'iront pas à la prochaine Coupe d'Afrique.
À la phase finale. Oui.
Oui, féminine de foot. Éliminée par la Tanzanie, malgré les espoirs que cette équipe a suscité auprès du public sportif togolais.
Oui.
Bon, quand même, c'est un sentiment d'espoir qui m'anime. Ce matin, j'y étais hier.
Vous étiez au terrain?
Au terrain.
Okay.
Bon, et seulement que nous allons encore exhorter la Fédération togolaise de football de ne pas attendre les derniers moments pour courir de gauche à droite. Il va falloir aujourd'hui que toujours des matchs amicaux avec des équipes, d'autres équipes considérées compétitives que la nôtre.
Oui.
Bon, et pour finir, je pense que je félicite les dames. Elles ont tout donné. Et je leur dis courage et que l'avenir est à nous. Cette équipe a de l'avenir.
Merci.
Donc, bonne chance.
Cet avenir qui est en nous, cet avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt.
Merci
pour dire qu'il y a conscience de se préparer pour les échéances à venir. Merci, M. Waris, qui ouvre le banc.
Et qui passe le témoin au suivant. Il ou elle est déjà là. Bonjour.
Oui, alors bonjour, Sas.
Oui.
Oui, Didier. Ah, bonjour, Fabrice. Bonjour, mon très cher Béni.
Oui, bonjour. Bonjour, Didier.
Allô? Oui, Didier, allez-y. Il vous écoute. Oui.
Ben, monsieur Sas.
Oui.
Quand, si l'opposition ne fait pas des revendications avant les élections, c'est monsieur Fabrice même et la dame qui est avec vous qui vient de nous dire dans cette émission que l'opposition sait que les trucs ne sont pas bons pour qu'elle est partie, pour qu'elle n'ait pas allé. C'est eux-mêmes, mais attendez, voici, vous racontez la paix. Mm-hmm. Mais moi, en tout cas, moi, ça ne me décourage pas. Mm-hmm. Le pouvoir peut faire tout. Moi, je vais aller voter, puis j'appelle l'opposition, j'appelle toute la population. Quelles qu'en soient les embûches que le pouvoir met dans le pied de l'opposition, il faut qu'elle aille voter. Maintenant, la balle est dans le cadre de la population aussi. Et puis, je vais poser une question à la dame là.
Oui.
Quel est ce jeu? Vous avez dit que c'est un jeu politique, le fait que le préfet interdit aux gens de faire les meetings. Quel est ce jeu politique? Ça, c'est la tricherie. Qu'est-ce que nous enseignons aux enfants? Quand vous êtes dans une compétition, l'autre profite, l'autre ne profite pas. Ou bien l'autre avance avant l'autre là. Il faut que les trucs soient égales. Si le pouvoir est conscient que l'opposition, il n'y a pas d'opposition, ou l'opposition est chaos, il n'a qu'à laisser les élections libres. Il n'a qu'à l'assainir la quête libre. Et puis on verra si l'opposition n'est pas crédible. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour décourager les gens à ne pas aller voter. Et puis, secondo, là, pour la COP là.
Oui.
Ouais, nous sommes dans un pays où nous sommes toujours en contradiction. Le gaz est à 9 000 et le prix du gaz est même plus cher que le prix du couple, alors que nous sommes en train de parler de COP. Ça, c'est les effets d'annonce. C'est pour nous tromper, nous manipuler seulement. Je vous remercie.
Merci. Alors, pour ce qui est des difficultés faites aux partis politiques de l'opposition, je pense qu'il faut reviser ce que Fabrice a dit, qu'il faut dissocier les actions de certains préfets du gouvernement. Si on trouve qu'un préfet a commis une erreur, il faut le relever, quitte même à le sanctionner, pour que ça ne déteigne pas sur l'action publique qui se veut quand même inclusive. L'auditeur suivant, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Monsieur
Niamavo, nous écoutons.
Salut le plateau.
Nous saluons en retour.
Oui, je dis à monsieur Didier de se calmer. Je rappelle que une fois je suivais sur RFI un journaliste qui expliquait le mot décryptage. En français facile, il disait que décrypter, c'est transformer le mensonge en vérité, ou bien la vérité en mensonge. Et vous les journalistes, vous êtes les yeux, les oreilles et la bouche de la population. Mais vous n'êtes pas le cerveau du peuple. Et vous-même, vous voyez comment, dans le Nord, l'opposition n'a pas accès. On ne va pas vous donner beaucoup d'exemples en vous citant seulement l'exemple de Soudou. Alors, le Togo appartient à qui? Si on ne se réprime pas par les milices, c'est par balle. Et les gens disent que, découragent la population en disant que l'opposition n'est pas prête. Mais Didier l'a bien dit. C'est les mêmes personnes qui seront ici en train de nous dire que ils savent que ce n'est pas bien nulé. Pourquoi? Ils allaient aux élections. Mais cette fois-ci, l'opposition sait bien que l'opposition sait ça. On ne peut pas dire qu'il est interdit de chier au bord de la route. Quelqu'un chie et l'opposition parle. On dit que pourquoi les gens passent. Il dit qu'on a chié au bord de la route. Mais on va passer. Cette fois-ci, on va critiquer. Je vous rappelle qu'au cours d'une élection, il y a eu des troubles comme ça. Et les ministres se sont huiliés sur les membres de l'opposition, un laboratoire qui a quitté l'hôpital pour aller chercher son enfant. Et on dirait un lièvre. La massue, bam! La moto était cabossée. Le monsieur blessé. Heureusement qu'ils ont laissé la vie sauver l'enfant. Et tout ça, là, vous allez dire que l'opposition n'a pas accès. L'opposition ne fait pas.
Merci, monsieur Niamavo. Mais des fois, nous avons l'impression que vous avez une vue partielle et partiale de nos commentaires. Tout ce que vous avez dit là, nous l'avons dit depuis toute l'année. Sylvestre Béni a rappelé que durant toute l'année 2023, on s'était attendu à ce que l'opposition profitât de ces moments de silence pour poser les réels problèmes. Maintenant, on soulève ces problèmes-là à quelques semaines, quelques jours de l'échéance. En tout cas, nous faisons notre travail de vous informer. Comme vous l'avez dit, nous ne sommes pas vos cerveaux. Vous êtes d'ailleurs plus intelligents que nous, mais nous aurons quand même eu le mérite d'attirer votre attention. L'auditeur suivant, bonjour.
Oui, du calme.
Nous sommes tout calmes, rassurez-vous.
Ça ira bien.
Oui, c'est monsieur.
Bonjour, mon commandant.
Ah, Patrick.
Comment ça va ce matin?
Ah, je suis encore civil, hein. Tu m'appelles souvent commandant, mais je suis un civil et innocent.
Au prochain recrutement, là, on va voir si on peut t'enrouler.
Ok, vous allez devant, je vous suis.
Il n'y a pas de souci.
Ok.
Une fois n'est pas coutume, je voulais parler de la santé ce matin.
Oui.
Votre confrère vient d'évoquer un petit problème là. Je voulais lui donner un petit conseil. Celui qui dit que quand il mange le vandou, il a le ventre constipé là.
Oui.
Voilà. Je vais lui conseiller de. Ça dit, faut pas qu'il mange au dehors, ça dit chez les bonnes femmes. On n'a qu'à lui préparer ça et 5 ou 10 minutes avant que ça ne soit cuit,
de mettre. Qui va lui préparer ça? Soyez précis, Patrick.
Bon, lui-même, il doit comprendre. C'est-à-dire 5 ou 10 minutes avant que ça ne soit cuit, là, de mettre un peu de potasse. Mm-hmm. Il verra. C'est-à-dire, quand il est constipé comme ça, c'est le gaz.
Oui.
En mettant du potasse maintenant, mm-hmm. ça permettra de router et le gaz va sortir et mm-hmm. son ventre. Pas les deux sorties d'ailleurs, en bas et en haut, quoi.
Uh-huh.
Et il verra que son ventre serait maintenant okay. à plat, quoi.
En tout cas, vous êtes un connaisseur du Wanzhou.
Voilà, okay. voilà. Et pour finir là, je voulais demander à Gardial, quoi.
Oui.
Très souvent, c'est mon exemple personnel. Quand je prends du Wanzhou là, oui. il n'y a pas de souci. Mais une fois que je prenne du haricot, j'ai mal aux pieds. Je ne comprends pas.
Ah bon?
J'ai mal aux pieds. C'est le haricot et la viande du bœuf. J'ai mal aux pieds. Bon, je me suis fait consulter, mais on m'a dit que moi, je pensais au départ que c'était un problème de gouttes. Bon, on m'a dit qu'il n'y a pas assez de gouttes, mais je ne comprends pas.
Bon, quand vous mangez du haricot, de la viande de bœuf, vous avez mal aux pieds.
J'ai mal aux pieds.
Eh bien, commencez par laisser le haricot et la viande de bœuf et on va voir pour la suite. Merci, Patrick. Bon, on se verra pour la consultation médicale gratuite. Pour le moment, laissons la parole aux auditeurs suivants. Bonjour. Ah, quelqu'un a attendu, il est parti, mais il va revenir. Oui, bonjour.
C'est Monsieur Kofi.
Monsieur Kofi.
Oui.
Nous vous écoutons.
J'ai été surpris ce matin par la réaction de nos grands frères de nos amis par rapport à l'opposition. Franchement, oui. c'est une surprise pour moi parce que nous sommes tous au Togo. Nous voyons les choses. C'est normal que l'opposition relève les manquements. C'est leur droit. Mais leur demander, tout en relevant ces éléments de travail, plus sur l'élection, serait mieux que de tirer sur eux comme ça. Ils ont dit ce qui est droit, ce qui est vrai.
L'ami Kofi,
oui.
vous avez senti quelqu'un tirer sur un parti de l'opposition dans ce studio aujourd'hui?
Je ne parle pas de tirer avec les fusils. Hein.
Sinon,
ils sont trop attardés sur ce que les autres ont relevé. C'est leur droit de le relever.
Oui.
Ils vont leur conseiller de travailler sur l'élection même, au même moment qu'il a l'intention du pouvoir de les laisser travailler sur le terrain. Lorsqu'on les empêche, ils ne peuvent pas avoir de résultats.
Et ça aussi, nous l'avons dit.
Si, notre intention, par rapport aux autres éléments.
L'ami Kofi, nous avons tenu à préciser plusieurs fois que les problèmes posés par l'opposition sont pertinents, sont réels et légitimes. Seulement, nous craignons que la façon dont ils le font ne produise un effet démobilisateur et démotivant sur leur public, sur leur électorat.
Oui, nous
aimerions tellement nous tromper, nous.
Oui, nous allons tous demander à nous aussi, citoyens, de faire la part des choses, savoir apprécier les éléments. Il faut une certaine sensibilisation pour que le peuple arrive à comprendre les éléments.
Merci beaucoup. Je vous en prie, l'ami Kofi. Un dernier auditeur. Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui.
Comment, Johannes?
Johannes, nous vous écoutons.
Mais écoutez ça, il faut savoir que nous avons l'habitude de vous écouter religieusement. Donc, quand il y a certains points que nous relevons, moi j'ai juste l'impression que vous, si vous prenez un point pour dire que vous l'avez dit. Il y a divers avis, divers analyses sur le plateau. Et il y a des points que nous critiquons. Donc ce n'est pas dire que nous avons une vue partielle, je ne crois pas du tout. Les divers avis qui sont faits sur le plateau, c'est sur ça aussi que nous intervenons. C'est bien vrai. Moi, ce que je reproche souvent à vous les journalistes, c'est que vous êtes très inspirés quand il s'agit de critiquer l'opposition de gauche à droite. Vous êtes très inspirés. À peine on relève un ou deux trucs qui ne vont pas dans ce pays de la part du pouvoir. Mais vous n'avez pas la même inspiration. Dire que je m'étonne même que vous disiez que.
Malheureusement, il est parti. Mais c'est lui qui le dit. Mais si d'autres, ceux qui nous écoutent là, si chaque auditeur pouvait appeler hein, pour partager avec nous sa perception du club de la presse. Ce serait bien, mais nous reconnaissons que nous sommes perfectibles. Mais je peux vous assurer que nous sommes bien inspirés pour que le débat soit vraiment inclusif, que les élections soient bien organisées avec les organes légitimes et bien investis, mais que l'opposition également joue à armes réelles avec le pouvoir sur le terrain. En tout cas, c'est ce qui me manie, moi. Mais vous avez une minute à chacun, peut-être pour préciser le fin de votre pensée sur les réactions des auditeurs. Coucou, Sylvestre Béni.
Préciser une pensée. Non, je crois que nous avons abordé beaucoup de sujets, surtout celle concernant donc l'opposition, celui concernant l'opposition, pardon, et nous l'avions dit, en réalité, ce n'est pas une fixation sur l'opposition. Si vous suivez bien nos débats, depuis fort longtemps, nous avons quand même demandé à ce que l'opposition soit proactive, soit plus visible sur le terrain. Nous l'avons écrit, je l'ai même rappelé au cours de cette émission, cet article où nous parlons donc d'hibernation, de capitalisation, parce que c'était plutôt le moment idéal pour poser un certain nombre de débats en amont, avant donc les élections. Aujourd'hui, c'est comme si nous sommes presque devant le fait accompli. Il y a certains sujets qui sont évoqués, sachant pertinemment que ces problèmes-là ne seront pas résolus avant donc les élections. Je parle donc de découpage électoral. Ça fait depuis les années, je crois, 56 ou 60 que ce débat se pose jusqu'à aujourd'hui. Si le pouvoir donc n'arrive pas à le faire, il faut le contraindre. Il faut un moment donné, parce que ça profite en réalité au pouvoir. Si vous prenez donc les élections de 2010, les législatives de 2010, vous avez vu que l'UFC a eu plus de voix que le parti au pouvoir, mais le parti au pouvoir a plus de sièges que l'UFC. Ça s'est répété avec les élections les élections donc de 2013 et tout. Donc à un moment donné, il faut faire même donc de ce sujet de découpage électoral une condition sine qua non. Mais les gens sont restés là, et à un moment donné, il y a quelques heures donc de ces élections, on pose donc ces débats, sachant pertinemment que il y aura, les gens ont dit dans ce pays, que sans les réformes, il n'y aura pas des élections. Sans les réformes, il n'y aura pas des élections. Mais au moment donc des élections, c'est plutôt eux les premiers qui sont allés donc déposer leur candidature. Donc à un moment donné, il faudrait quand même qu'on soit conscient, qu'on soit conséquent. Donc là, la manière, c'est vrai que la politique, c'est un jeu, mais il faut véritablement qu'il y ait un bon de logique dans ce que nous faisons. Donc voilà un peu ce que nous disons. Mais tout compte fait au niveau donc du pouvoir, je crois que nous avons tellement relevé donc les terres donc du pouvoir et tout. Donc bon, voilà, si certains pensent qu'on a fait, on n'en fait pas assez. Je crois que
les institutions de la République dont les mandats ont échu depuis des années, vous rappelez toutes les semaines,
les émissions, on a tellement fait des émissions ici sur le sujet.
Merci beaucoup, Koku, Joachim Loco.
Je voudrais remercier l'auditeur, c'est Patrick.
Patrick
qui m'a montré les astuces pour bien manger mon bonzo.
Surtout la personne qui doit te préparer ça.
Et surtout la personne qui doit me préparer ça. En tout cas, après l'émission, je vais l'appeler pour lui demander la personne qui doit me préparer ça.
Merci.
Non, mais par rapport à des accusations, qu'on fait fixation sur l'opposition et qu'on ne parle pas, on ne critique pas assez le pouvoir, je pense que quand même que ce n'est pas le cas ici. Au club de la presse, nous avons toujours parlé de l'opposition, quand l'opposition fait bien, quand l'opposition fait mal aussi, on le dit, quand le pouvoir qui fait bien, on le dit. Tout à l'heure, on disait que ce n'est pas bon quand même, parce que nous sommes en démocratie, d'empêcher les opposants d'aller sur le terrain et d'aller parler à leurs militants. Et donc, je pense quand même que les gens n'ont qu'à extrêmement faire attention et n'ont qu'à nous suivre attentivement au cours des débats. Autant nous critiquons les opposants, autant nous critiquons le pouvoir quand le pouvoir ne fait pas bien. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez donner en même temps mon carton.
Vas-y.
Et là, je donne un carton rouge aux violeurs de feu rouge et qui créent les accidents. On dirait que les gens sont tellement excités à l'approche des fêtes de fin d'année.
C'est Ramadan.
Oui, c'est bien que les gens violent allègrement les feux et malheureusement, quelqu'un qui roule tranquillement, on le cogne et il se retrouve au CHU Tekon. Donc, je voudrais inviter les uns et les autres de faire extrêmement attention, surtout qu'il y a un phénomène actuellement. Je ne sais pas dans quelle école de conduite on a montré aux Togolais, en face d'un obstacle, au lieu de ralentir ou de freiner, ils préfèrent klaxonner. Oui. Et donc, les gens n'ont qu'à extrêmement faire attention
en face d'un obstacle, il faut plutôt ralentir ou bien il faut plutôt
appuyer. Pour ce qui est des accidents avec les conséquences éventuelles, je vous prie de revisiter le reportage que la TVT a réalisé hier, quand les ministres du ministre des Transports, Acha, et son collègue de la sécurité, le colonel
Madjoulba.
Si vous voyez les gens dans la salle de traumatologie au CHU, je pense que ça va toucher un peu notre enthousiasme et qu'on aille doucement.
Et surtout que nous sommes passés par là.
Merci.
J'ai fait un an et je sais ce que c'est.
Fabrice Paton Petit-Zi.
Non, moi, je voudrais tout simplement dire que les auditeurs comprennent qu'on ne critique que ceux qui posent des actes. Hein. Et très souvent, la plus vive critique, c'est à l'endroit du gouvernement, puisque c'est lui qui est en action, qui pose des actes. Alors, pour une rare fois où l'opposition a posé certains actes qu'il supporte également, qu'on émette des critiques sur les actions posées par tel ou tel. Moi, je faisais partie de ceux qui avaient dit en 2018 que boycotter l'élection était une erreur. À l'époque, on nous a traité de tous les noms d'oiseaux. Alors voilà, et 2018, on n'est pas allé et on a encore perdu du terrain, puisqu'aujourd'hui, ça se cuisine à la CENI, mais vous n'êtes pas très représenté là-bas à ce niveau. Ça fait partie des éléments sur lesquels il faudrait que les gens se remettent en cause et cherchent à évoluer. Bon, au lieu d'être là pour dire, je me souviens, on était au primaire, il y avait certains élèves, lorsque son camarade est premier de classe, pour lui, c'est le maître qui l'aide. Sans savoir si lui-même, est-ce que le problème qu'on a donné, il l'a bien traité, est-ce que ses cours, il les lit bien, mais il trouve toujours que les autres bénéficient jusque des avantages. Je crois que aussi longtemps qu'on continuera comme ça, on ne saura pas la vérité. Et tout à l'heure, il y a deux auditeurs, et quand vous suivez leurs propos, c'est la première fois qu'ils veulent aller voter. Puisque quand faites l'analyse de leur discours, cette fois-ci, nous allons voter. Et voilà des gens qui, pour la première fois, décident d'aller voter. Et je aussi parle de fraude électorale. Toi, même qui es membre d'un parti, tu n'avais même pas de carte d'électeur. Pour une fois, tu as décidé d'aller faire une carte d'électeur. Maintenant, ils disent tout ce que l'opposition dit, ça ne les démobilise pas. Cette fois-ci, ils iront. Que même si on chie au bord de la route, ils vont pincer leur nez, ils vont passer. Voilà. La première fois, ils veulent aller voter. Qui sait que pour une fois, si des gens décident...
On va passer à Estelle.
Non, en fait, j'ai comme l'impression que les auditeurs ou auditrices, parfois, entendent juste ce qu'ils ont envie d'attendre. Hein. On a discuté tout à l'heure, on a désingué le pouvoir, aussi bien le pouvoir que l'opposition. Et le débat politique décuple toujours les passions, surtout au niveau de l'opposition, parce que ça fait longtemps que ça dure. Et en analysant la situation tout à l'heure, c'est des propositions que nous faisons à l'opposition pour mieux faire. On ne sait pas dans l'intention de faire une fixation pour détruire ou pour encenser le pouvoir au détriment de l'opposition. Ça reste juste des analyses. De toutes les façons, nous n'avons aucun intérêt là-dedans. C'est pour le fonctionnement du pays. Il y a un auditeur qui m'a interpellé sur le jeu politique. Oui, j'ai évoqué le jeu politique parce que le jeu politique reste le jeu politique. Ça consiste à analyser ou à recenser les points faibles de l'adversaire et à frapper là-dessus pour pouvoir avancer. C'est pourquoi j'étais intéressée de savoir pourquoi on a interdit en fait la manifestation des FDR. Si c'est le FDR même qui a donné le bâton, bon, peut-être on a saisi. C'est en cela que j'ai évoqué
merci
le jeu
beaucoup.
Politique. Sinon, ce n'est rien d'autre.
Rassurez-nous, hein. Aussi bien les gens du pouvoir que de l'opposition, ce sont nos parents, ce sont nos amis. Nous n'avons pas intérêt à privilégier l'un par rapport à l'autre, que le jeu soit tout simplement équitable et bien ouvert. Gadiel ?
Oui, j'aimerais répondre à cet auditeur qui dit que quand il consomme le haricot ou bien la viande, il a mal aux pieds.
Oui.
Il n'a qu'à laisser tomber ces deux aliments. Bon, tout court, c'est quand vous consommez un aliment, vous avez des réactions au niveau de la peau, bien vous êtes même malade, laissez tomber carrément ces aliments. Lui, il a fait une bonne observation, il y a des gens qui ne le savent pas. Ils consomment des aliments qui les rendent malades, mais ils continuent. Donc,
notamment ceux qui ne savent pas que quand ils abusent de l'alcool, ils deviennent sourds.
Tout à fait.
C'est fini pour aujourd'hui, rendez-vous demain jeudi à 11h.